Chapitre 18. La mise en place de la corde, des nœuds, du baudrier, du mousqueton et la logistique de l'assurage pour tenter de récupérer les deux corps suspendus à l'aiguille furent un peu compliquées. Du moins pour des esprits fatigués et en manque d'oxygène, luttant pour rester cohérent au-dessus de 8500 mètres. D'abord, nous fixâmes quatre cordes aux champignons de pierre, dont le pied paraissait assez solide pour soutenir quatre pianos à queue. L'une d'elles fut reliée à Reggie qui, sur l'insistance de Passang et du diacre, dut mousquetonner son baudrier à une corde supplémentaire. Malgré ses précautions, c'était angoissant de la regarder à plat ventre sur la saillie, sa tête et ses épaules dans le vide au-dessus du précipice. Une fois la corde d'assurage accrochée aux champignons et deux piolets posés sur le bord de la corniche pour éviter que la corde ne morde dans la neige et la glace, le diacre et moi fîmes lentement descendre Jean-Claude le long de la pique. Reggie était nos yeux.
Doucement. Bien. Bien. Doucement. Bien. Il est à 4,50 m de l'aiguille. Bien. Doucement. Stop. À peine plus. Là.
Je me réjouissais de ne pas voir mon ami français suspendu à côté de cette dent de roche carriée où s'était amarrée une vieille corde de 9,5 mm effilochée d'où pendaient deux cadavres qui tournaient lentement dans les vents incessants.
Il nous fait signe qu'il veut commencer par Percival,
dit Reggie.
Il demande 1,80 m de mou et la deuxième corde.
Passang, qui avait préparé deux cordes supplémentaires avec des nœuds de lasso, s'approcha tranquillement du bord de la saillie à côté de Reggie et en lâcha une destinée à attacher le corps du cousin. Puis il revint vers moi et me donna l'autre extrémité. D'après notre plan, le diacre continuerait d'assurer JC pendant que je remonterais le corps de Bromley et Passang se chargerait de hisser celui de Meyer. Mais d'abord, JC devait enfiler les deux cordes autour des cadavres et les attacher solidement sous les bras.
Jean-Claude a les pieds posés sur l'aiguille et il est penché presque à l'horizontale pour tirer vers lui le corps de Percy,
rapporta Reggie. Le simple fait d'entendre cette description me rendit légèrement nauséeux. La corde miracle du diacre avait fait ses preuves au cours de notre expédition. Elle nous avait en particulier permis de hisser de lourdes charges avec la bicyclette de JC. Mais aucune vie n'avait dépendu d'elle comme celle de JC en cet instant. Tous les alpinistes de notre expédition, dont Reggie, passant quant à lui semblait être un grimpeur né, s'étaient formés à une époque où les cordes, telles celles de Mallory et d'Irvine, se cassaient le plus souvent quand elles étaient soumises à la tension d'une lourde charge ou d'une chute.
« Encore un peu !»
me dit Reggie alors que je faisais descendre la corde.
« Très bien, il l'a !» Encore 1 m ou 1,50 m de mou, s'il vous plaît, Jake. Il essaie de faire passer la corde sous les bras de Percy. Les bras ne bougent pas.
Rigor mortis, murmurai-je à Passang, qui se tenait à côté de moi avec la deuxième longueur de corde. Non, ça c'était il y a un an, répondit le médecin à voix basse pour éviter que Reggie ne l'entende. Lord Percival est congelé depuis longtemps. Ah, d'accord. Dis-je, regrettant d'avoir posé la question.
« Il a passé la corde, mais il a du mal à serrer le nœud coulant, »
dit Reggie. Du coin de l'œil, je vis le visage du diacre trempé de sueur. La corde d'assurage était fixée aux champignons par sécurité, mais il l'avait passée autour de sa taille et sur son épaule, et c'était lui qui supportait le poids de JC. Il avait retiré ses moufles et ne portait plus que ses fins gants de soie. Je vis qu'ils étaient imprégnés de sang. J'avoue que j'étais anxieux. L'expression « poids mort » prend une terrible réalité quand on doit concrètement soulever un cadavre. Rien ne paraît plus lourd.
« C'est bon, Jake. Il a attaché le corps de Percy, »
dit Reggie. Je commençais à tirer sur la corde quand elle cria
« Stop !»
J'avais oublié que JC devait attacher le cadavre de Meyer avec la corde tenue par Passang avant de pouvoir couper celle à laquelle les deux cadavres étaient pendus depuis un an. Nous perdrions plus que les corps si ces quatre cordes s'emmêlaient ou se rompaient.
« Le pied de Jean-Claude a glissé de l'aiguille !»
annonça Reggie.
« Il essaie de le reposer sur le roc !»
Je fermais les yeux pour tenter d'imaginer ce qu'on ressentait quand on se balançait au bout d'une seule corde, assurée par un seul homme, au-dessus d'un précipice de cette taille. Le diacre grogna plus à cause de l'effort que lui imposait son relais qu'en réaction aux paroles de Reggie. La brusque tension exercée sur la corde par JC, quand il avait perdu sa prise de pied sur l'aiguille à cause de mon mouvement prématuré, avait mis à rude épreuve les mains, les épaules et la taille du diacre.
« C'est bon ! Ses bottes ont repris appui sur la roche !»
dit Reggie. De la sueur coulait sur le menton du diacre. Nous n'avions plus pris d'oxygène depuis un moment. Nos sacs à dos étaient posés contre le côté sud du champignon. Passang avait commencé à descendre la deuxième corde avant même que Reggie le lui ait demandé. Quand il eut lâché 15 mètres, il passa à quatre pattes sous ma corde tendue et celle du diacre, afin de se placer à gauche de notre ligne de trois relayeurs.
« Encore un peu ! Encore ! Doucement maintenant !»
disait Reggie.
« Ça y est, il l'a ! Donnez-lui encore deux petits mètres, Passang !»
Passang obtempéra calmement.
« Zut ! »
dit Reggie.
« Il ne peut pas atteindre Meyer depuis l'aiguille. Il va devoir se balancer pour pouvoir l'attraper.
« Oh mon Dieu !» murmurai-je. Quand plusieurs cordes pendaient ainsi tout près les unes des autres, ça risquait toujours de mal tourner, et ça tournait mal en général. « Vous avez besoin d'aide ?» demandai-je au diacre, qui avait calé ses bottes contre une petite arête de roche à 1 mètre au nord du champignon. Il secoua la tête en voyant des gouttes de sueur voler dans le vent.
« Se balance ? Se balance ? Raté !»
dit Reggie.
« Là, il se tient presque à l'horizontale de l'aiguille pour essayer. »«
Mon Dieu !» répétai-je à voix basse. Je crois que cette fois, c'était une prière. Je me rendais compte que si la vieille corde effilochée se rompait avant que JC ait pu arrimer le corps de Meyer, et si notre ami essayait de retenir l'Autrichien comme j'étais sûr qu'il le ferait, leurs deux poids combinés pèseraient au bout de la ligne qu'assurait le diacre. Même si l'extrémité de la corde était attachée au champignon, je doutais qu'elle résiste à une telle charge. La corde d'assurage de JC était plus tendue que jamais et appuyait fort contre les deux piolets plantés au bord de la saillie. Nous les avions sécurisés avec plusieurs ancrages et deux cordes supplémentaires fixées aux champignons. Le diacre grognait en supportant le poids de JC.
« Meyer a la tête en bas !»
rapporta Reggie.
« Jean-Claude essaie de le retourner !»
La corde miracle pourra-t-elle résister à cette pression, me demandais-je encore? Eh bien, nous serions fixés dans les minutes suivantes. En attendant, je tenais fermement la corde reliée à Lord Percival Bromley, l'homme qui, s'il avait vécu, serait devenu le 6e marquis de l'Exeter.
« Il l'a !»
s'écria Reggie.
« Il passe la boucle sous les aisselles de Meyer, et il essaie de reprendre appui sur l'aiguille !»
Le diacre poussa un grondement. La corde était tellement tendue qu'il semblait en train d'essayer de remonter un marlin géant à la seule force de ses mains ensanglantées, de son dos arqué et de son corps gainé.
« Jake ! Passang, préparez-vous !»
nous cria Reggie.
« Jean-Claude s'apprête à rompre la vieille corde. Il a ouvert son canif !»
J'avais trouvé une arête de roche sur laquelle calaient mes bottes. J'avais gardé mes crampons, n'étant pas sûr d'avoir assez de dextérité pour les remettre ensuite sinon. Et je me penchai en arrière, me préparant à supporter l'impact du poids mort. La corde se tendit, mais il n'y eut presque pas de pression et peu de sensation de poids. Les goraks avaient-ils vidé le corps de Bromley de la même façon qu'ils avaient grignoté la cavité abdominale de George Mallory par le rectum du malheureux cadavre? Oh mon Dieu! Par égard pour Reggie, j'espérais que ce ne fut pas le cas.
Tirez!
Cria Reggie, sans nécessité, pensais-je, puisque Passang et moi hissions déjà nos charges, une main après l'autre. Seul le diacre demeurait en position passive d'assurage. Nous avions décidé dès le début que nous remonterions les cadavres les premiers avant de récupérer notre ami. Bromley atteignit la corniche et son corps se coinça sous le surplomb de neige et de glace.
« Une seconde !»
dit Reggie. Elle se pencha par le bord de la fragile corniche qui avait déjà cédé une fois, et mania son piolet comme un pêcheur utiliserait une gaffe pour ramener un gros poisson dessous la coque de son bateau. Elle crocheta la corde, la tête et les épaules de Bromley apparurent, et je tirai de toutes mes forces.
Revenez sur le roc !»
gronda le diacre, et je m'aperçus qu'il parlait à Reggie. C'est ce qu'elle fit, rampant doucement en marche arrière. Le corps de Meyer que tirait Passang remonta à son tour sur l'arête nord-est, la tête et les épaules du mort glissant sans difficulté par le trou en forme de croissant que Percival et lui avaient créé l'année précédente. Je remarquais, vaguement puisque toutes mes impressions sensorielles semblaient m'arriver de très loin, les mètres de vieilles cordes effilochées qui pendaient de la taille des deux alpinistes. Une fois que nous eûmes mis les corps en sécurité aussi près que possible du champignon, tout en gardant de la place pour nous, Passang et moi allâmes aider le diacre. Reggie retourna sur la corniche, sa tête et ses épaules de nouveau penchées dans le vide. Elle fit signe à J.C. que nous étions prêts à le remonter. Ce serait là, je le savais, le véritable test pour la corde miracle. Je regrettais que nous n'ayons pas pu passer une deuxième corde autour de Jean-Claude, mais nous avions utilisé les 60 mètres dont nous disposions pour remonter les corps. Nous nous mîmes à tirer tous les trois, lentement, de manière régulière et parfaitement coordonnée, voyant la corde glisser sur les piolets plantés à l'horizontale. Reggie nous indiquait la distance restante.
12 mètres. 10. 7. Les pieds de Jean-Claude n'arrivent pas à toucher la paroi. Il est toujours dans le vide.
Ça, nous le savions par le poids que nous sentions dans nos épaules et nos mains.
7 mètres. 5. 3. Attention !
Reggie se tut, tendit les bras, attrapa la parka de notre ami et le tira par les épaules. Tandis que nous trois continuions à hisser la corde, J.C. posa les mains, puis les genoux sur la corniche, et s'en éloigna aussitôt à quatre pattes. Reggie avait failli basculer par le précipice quand J.C. avait pris pied sur la saillie, mais Passang avait saisi la corde d'assurage de sa main droite et tiré un bon coup dessus, ramenant brutalement Reggie sur la neige ferme. Elle aussi revint vers nous à quatre pattes. Après avoir défait tous les nœuds, récupéré toutes les cordes et les avoir enroulées et posées près du champignon, nous nous accroupîmes en cercle autour des cadavres.
« Voici mon cousin Percival !»
dit Reggie, juste assez fort pour être entendu par-dessus le vent. Elle retira ses moufles et ses gants et posa sa main nue sur la poitrine de son cousin. On ne sentait aucune odeur de décomposition. Les parties exposées du visage et des mains des deux hommes, et un endroit du torse de Meyer sous une déchirure dans ses vêtements, étaient devenues presque blanches sous l'effet des ultraviolets, comme le dos de Mallory. Leur peau paraissait momifiée, leurs yeux et leurs joues s'étaient creusés, mais ils n'avaient pas été attaqués par les goraks. J'ignorais pourquoi. Il y avait une blessure par balle visible dans l'épaule gauche de Meyer, pas une blessure fatale, dit le diacre. Quant à Bromley, nous eûmes beau retourner son corps, nous ne vîmes aucune entrée ou sortie de balle.
« Les Allemands n'ont donc pas tué Lord Percival ?»
dis-je, la voix rendue pâteuse par la fatigue, l'altitude et l'émotion.
« Ils l'ont tué, mon ami !»
dit Jean-Claude.
« Mais pas par balle. Ils ont dû tirer sur Meyer, obligeant Lord Percy à sauter plutôt que de subir le même sort. »
« Remettez vos gants, Reggie, »
lui dit gentiment le diacre. Je l'avais vu remettre sa paire de gants en laine sur ses gants de soie ensanglantés.
« Lady Bromley, mon fort, » dit Passang, « nous allons fouiller Lord Percival pour vous. »
Reggie secoua la tête.
« Non, je vais le faire. Vous voulez bien m'aider, Passang ?» Ensuite, vous examinerez la blessure par balle de Meyer. Vous autres, fouillez les vêtements de Meyer.
Que cherchons-nous ? Demanda Jean-Claude.
Je ne sais pas exactement,
dit Reggie.
Une chose que Meyer a transportée sur des milliers de kilomètres, à travers l'Europe, le Moyen-Orient, la Perse et la Chine.
Nous manipulâmes les corps avec délicatesse, suivant peut-être l'exemple de Reggie. La première chose que je remarquais concernant Meyer, malgré les dommages causés par une année passée suspendue dans les airs sur l'Everest, c'est qu'il paraissait très très jeune.
« Quel âge avait-il »
demandai-je à la cantonade.
« 17 ans, je crois,
répondit Reggie. Elle était occupée à fouiller les poches de son cousin. Aucun d'eux n'avait de sac à dos. Nous examinâmes les nombreuses poches de ce qui leur restait de leurs vêtements. Dans la veste de Meyer se trouvaient plusieurs lettres en allemand, je ne réussis pas à déchiffrer l'écriture gothique sur les enveloppes, ainsi que son passeport autrichien tamponné à une dizaine de postes frontières. Il y avait aussi un gros tas de billets.
« Mon Dieu, » dis-je. « Ils sont vrais ?»
Le diacre les feuilleta. Les liasses étaient entourées de leurs bagues, sur lesquelles on lisait encore « National Provincial Bank LTD London ».
« C'est une vraie banque, Richard ?»
demanda J.C.
« J'espère bien, » répondit notre ami. « Le peu d'argent qui me reste y est déposé. »
Il comptait les billets.
« Il y a 15 000 livres !»«
Donc, votre cousin Percy payait pour obtenir cette information ?»
dit J.C. à Reggie. Elle leva les yeux de la poche qu'elle était en train de fouiller.
« Probablement. C'est ce qu'il faisait avec ses sources, qui acceptaient de risquer leur vie et celle de leur famille pour trahir leur maître allemand ou autrichien. » D'après le peu que m'a raconté Percy, en général, après un bon dîner très arrosé, l'espionnage consiste souvent à payer des personnes peu ragoûtantes.
« Cet Autrichien, » dis-je en montrant du doigt le corps du jeune homme, « c'est donc un personnage peu ragoûtant ?»«
Je ne crois pas, »
dit Reggie, dont les mots furent presque couverts par le vent d'ouest.
« Regardez son passeport. » Et vous comprendrez pourquoi il a probablement fait ce qu'il a fait et a tout risqué pour réussir.
J'ouvris de nouveau le passeport autrichien, mais je n'y trouvai rien de particulièrement intéressant. Nom, Kurt Abraham Meyer. Date de naissance, 4 octobre 1907. Profession, apprenti typographe.
Là,
dit le diacre, et il montra la case religion. Dessous, dans l'écriture impeccable de quelques fonctionnaires, il était écrit « Israélite ».
Il a espionné au profit de votre cousin parce qu'il était juif.
Demandai-je à Reggie, mais elle ne me répondit pas. Elle venait de sortir une épaisse enveloppe en papier Kraft de la poche de poitrine de la veste Norfolk de son cousin et faisait écran avec son corps pour la protéger des rafales de vent. À l'intérieur de la grande enveloppe se trouvaient 5 petites. Chacune paraissait contenir le même nombre de photos. 7. Je ne voyais pas ce qu'elle représentait, puisque Reggie était toujours penché dessus. Mais je me disais qu'au prix de 15 000 livres en cash, elles avaient intérêt à montrer les photostats du dernier dirigeable militaire du comte von Zeppelin.
« Ah !»
s'exclama Reggie, comme si on lui avait brusquement coupé le souffle et qu'on l'eût confronté à une révélation.
« Voulez-vous voir pourquoi Percy et Meyer sont morts, messieurs ?»
Passang fut le seul à ne pas hocher la tête. Il était occupé à découper le tissu du gilet et de la chemise de Meyer pour examiner la blessure par balle sur l'épaule, juste au-dessous de la clavicule.
« Faites attention, » dit Reggie. « Il y a 5 séries identiques, mais celle-ci contient les négatifs. Ne les laissez pas s'envoler. »
Elle tendit un des tas de photos au diacre, qui les regarda l'une après l'autre, hocha la tête et les passa avec précaution à J.C. Contrairement au diacre, J.C. réagit autant physiquement que vocalement à ce qu'il découvrit. Il recula la tête comme s'il venait d'être assailli par une mauvaise odeur, tout en tendant les bras pour éloigner de lui les photos.
« Mon Dieu ! Elles sont... C'est... abominable !»
Je me penchai pour voir les clichés par-dessus son épaule, mais n'aperçus que des silhouettes blanches sur un fond sombre.
« Abominable !»
répéta J.C. en secouant la tête.
« Parfaitement abominable !»
Il me tendit les photos. Je dus les tenir à deux mains à cause du vent et baisser la tête pour les voir. Puis je m'aperçus que j'avais toujours mes lunettes et je les repoussai sur mon front avant de regarder les 7 clichés en noir et blanc. Chaque photo montrait un homme d'une trentaine d'années, mince et pâle, en plein acte sexuel avec des jeunes gens. Non, pas des jeunes gens, des jeunes garçons. J'en dénombrais quatre différents. Le plus âgé devait avoir 13 ans. Le plus jeune, pas plus de 8 ou 9 ans. Les photos étaient parfaitement nettes. La chair nue très blanche sur un fond noir ou le flou gris de drap emmêlé. La pièce ressemblait à une chambre d'hôtel minable, européenne, peut-être autrichienne, avec du mobilier lourd et des murs peints de couleur foncée. Le photographe avait dû utiliser un flash ou une pose longue parce que les rideaux étaient tirés devant la seule fenêtre qu'on devinait dans la pièce. La netteté des clichés et la profondeur de champ prouvaient que l'appareil photo était de bonne qualité. Chaque tirage mesurait environ 12 cm sur 17, et les négatifs se trouvaient dans une chemise en papier au fond de l'enveloppe. En 7 clichés seulement, une incroyable variété de perversité était présentée. Je suis sûr que mon visage refléta la profondeur du choc que j'éprouvais. Par pudeur, j'aurais dû détourner les yeux après la première photo, mais je devais voir, selon le même réflexe qui me saisit aujourd'hui quand je passe devant des voitures gravement accidentées sur l'autoroute. L'homme adulte était très maigre et apparemment sous-alimenté. Ses côtes et ses os iliaques saillaient et quelques croûtes étaient visibles sur sa peau. Un bourgeois probablement, à en juger par ses cheveux courts, séparés par une raie sur le côté et coiffés en arrière avec de la brillantine. Quand il n'était pas dressé en touffe grasse dans le tumulte de l'instant. Il avait les lèvres fines, aux plis sévères, sur la seule photo où il n'ouvrait pas la bouche dans le feu de la passion ou pour pratiquer des actes sexuels déplaisants. Sur un cliché, il sodomisait le plus petit des garçons tout en léchant en même temps le sexe dressé du jeune de 13 ans. Sur un autre, un enfant qui n'avait pas plus de 10 ans masturbait l'adulte, tandis que celui-ci jouait avec le sexe des deux plus jeunes sous le regard vide du plus âgé qui se tenait debout, nu et paraissait avoir été drogué. Le visage de ce dernier me sembla étrangement familier, puis je compris avec un choc. C'était Kurt Meyer, environ 4 ans avant de mourir sur l'Everest. « Oh, mon Dieu !» murmurai-je. Sur l'une des photos, les protagonistes étaient presque impossibles à distinguer, dans l'enchevêtrement obscène de leurs 5 corps émaciés sur les draps froissés, formant un tableau presque insoutenable pour mon innocent esprit d'Américain protestant. Le seul visage clairement visible était celui de l'adulte. Je me concentrais sur ce visage, tentant d'ignorer le reste, et m'aperçus que je l'avais déjà vu lui aussi. Une fois, sur une affiche de propagande nazie dans une brasserie de Munich. Le visage était alors un petit peu plus âgé, plus plein, mais l'intensité sombre du regard était la même, ainsi que cette ridicule moustache à la Charlot. En cet instant, je ne parvins pas à me rappeler son nom. Je rangeai les photos dans l'enveloppe et levai les yeux vers Reggie, JC et le diacre.
« C'est pour ça que votre cousin est mort ?» demandai-je, le souffle court. « Pour ça que nous risquons notre vie ?»« Pour ces obscénités ?»«
C'est abominable !» répéta doucement Jean-Claude, le regard toujours détourné.
« Abominable !» criai-je. « C'est de la folie furieuse !» « Je n'ai jamais rien vu de pareil et je ne veux plus jamais voir ça !»« Mais qu'est-ce qu'on en a à fiche de la perversion de cet Allemand ? Qui peut bien se soucier de ses photos ?»«
L'adulte qui abuse de ses enfants n'est pas un Allemand, » dit Reggie. « Il est autrichien, même s'il a perdu la nationalité autrichienne en s'installant en Allemagne il y a quelques années. Et vous savez que c'est le chef du National-Socialistische Deutsche Arbeiterpartei, un groupe terriblement dangereux, Jake.
Il est en prison !
M'écriai-je.
Le diacre et moi l'avons appris en novembre dernier, quand nous avons rencontré Siegel dans cette fichue brasserie de Munich.
Il a été relâché en décembre dernier, dit le diacre, au moment où nous achetions des bottes et des cordes à Londres.
Je me fous qu'il soit socialiste !
criai-je encore, me levant et tournant autour du champignon de pierre dans mon agitation.
« Bon sang, mais qui s'intéresse à ces socialistes ? On en a des milliers à New York, sans doute des centaines à Boston, où je vis. Pourquoi Lord Percival a-t-il risqué sa vie ? Est-il mort ?»
Je montrai du doigt le cadavre à mes pieds. Cette fois, je remarquai sa moustache à la Douglas Fairbanks et l'ombre de barbe sur ses joues et son menton. L'espace d'une seconde, je manquais tourner de l'œil en me remémorant que les poils continuaient de pousser après la mort.
Tout ça pour des photos cochonnes d'un putain de socialiste,
terminai-je d'une voix faible.
Ce n'est pas un socialiste, Jake, dit Reggie. C'est un nazi. Le chef des nazis.
Elle cherchait quelque chose dans son sac à dos.
Et alors ? Il y a des centaines de groupuscules politiques de cinglés dans l'Allemagne de Weimar. Même moi, je le sais, alors que je fais à peine la différence entre un républicain et un démocrate. Dire qu'on est monté si haut sur l'Everest pour que tout soit gâché par ça ! Qu'on a souffert autant pour ne récolter que les photos pornographiques d'un pédérastre pervers et de ses victimes. En plus, bon sang, vous voyez bien qu'une des victimes, l'un des gamins dans cette chambre, était le jeune Kurt Meyer, le type qui a vendu ce tas d'immondices à votre cousin Percy.
Dans ma fureur, je brandis l'enveloppe entre deux doigts dans le vent.
Je vais jeter ces horreurs. Jake !
Cria Reggie. Je baissai les yeux vers elle. Elle tenait son pistolet de détresse à deux mains et le pointait droit sur mon visage ébahi.
« Si vous lâchez ces photos, »
dit-elle d'une voix contrôlée,
« je vous jure que je vous tue. Je vous aime beaucoup, Jake. Je vous aime tous beaucoup. Mais si vous ne me rendez pas ces clichés, j'ouvre le feu. Je n'ai pas hésité avec cet Allemand sur le glacier. »
En cette seconde, je savais qu'elle disait la vérité, qu'elle m'aimait beaucoup, comme un frère, hélas, ou comme un cousin, mais qu'elle mettrait sa menace à exécution si je lançais ses photos. Je me remémorais la cartouche rouge qui avait explosé dans la bouche ouverte de Karl Bartner et le liquide, pareil à de la cire fondue, qui avait coulé de ses yeux. Je lui tendis précautionneusement l'enveloppe contenant les photos et les négatifs.
« Ce que j'aimerais savoir, » dit le diacre d'un ton neutre, « c'est qui a pris ces photos ?»«
Pas Bromley. » »«
Non, »
répondit Reggie. Sa voix sembla soudain infiniment lasse.
« Bien que Percival ait dû fréquenter certains de ses établissements et de ses cercles, sous son déguisement d'expatrié britannique dissolu et pro-allemand, c'est Kurt Meyer qui les a prises, avec un petit appareil assez sophistiqué, muni d'un retardateur. Percy le lui avait confié précisément dans ce but.
Tous nos regards se concentrèrent sur le corps de l'Autrichien. Il était si jeune. Pour la première fois, je remarquai une ombre rousse sous son nez, là où l'adolescent avait manifestement voulu faire pousser une moustache d'homme.
« Meyer était donc lui aussi un espion ?»
demandai-je sans vraiment espérer de réponse.
« Il était dans les fichiers des services de renseignement britanniques, »
dit Reggie.
« Et Kurt Meyer était juif, »
ajouta-t-elle comme si ça expliquait tout. Je n'avais jamais rencontré de juif à Harvard ou dans mon milieu bostonien, bien sûr, mais je savais que les nazis les détestaient, même les juifs allemands ou autrichiens. Pourtant, cette ordure d'Hitler couchait avec de jeunes garçons juifs. Rien n'avait de sens. Tout était seulement dégoûtant. Je secouai la tête.
Kurt Meyer était l'un des hommes les plus courageux avec qui mon cousin eût jamais travaillé,
reprit Reggie.
Et Percy avait travaillé avec des centaines d'hommes courageux, dont beaucoup ont payé ce courage de leur vie.
Je n'avais rien à dire à cela.
« Le voici,
déclara Reggie, qui avait recommencé à fouiller les poches de son cousin après avoir posé le pistolet Very avec lequel elle avait menacé de me tuer. Elle sortit un carré de soie vert plié, que je pris d'abord pour un mouchoir délicat, un peu comme celui que nous avions trouvé sur le corps de George Mallory, mais qui se révéla être un drapeau d'un peu moins d'un mètre sur un mètre, représentant un griffon terrassant un aigle au-dessus d'une lance d'aspect médiéval. J'avais déjà vu ce drapeau, un modèle plus grand, flottant au-dessus de Bromley House le jour où nous avions rendu visite à Lady Bromley.
« Votre cousin pensait-il vraiment pouvoir atteindre le sommet de l'Everest avec ce garçon ?» demanda le diacre.
« Apparemment, ils étaient acculés à grimper s'ils voulaient échapper à leurs poursuivants nazis, »
dit Reggie d'un ton acide.
« Les cordes fixes laissées par l'expédition de Mallory et d'Irvine leur donnaient une chance. Mais les Allemands étaient de meilleurs alpinistes. Cependant, Percy menait toutes ses entreprises avec une détermination absolue, de sorte qu'il aurait peut-être atteint le sommet en partant du camp le plus élevé de Mallory, si Seagull ne l'avait pas rattrapé. Même si ce n'était pas l'intention de mon cousin en entreprenant cette ascension. »
Elle replia le drapeau et le rangea dans les épaisseurs de ses vêtements.
« Mais je vais l'escalader pour lui.
Personne n'escaladera quoi que ce soit si on ne se dépêche pas !»
s'écria Jean-Claude par-dessus le grondement du vent. Pendant que nous étions occupés à regarder des images pornographiques, à discuter, à se menacer de mort, etc., J.C. avait sorti ses jumelles de son sac à dos et s'était approché du dangereux bord oriental de l'arête nord-est pour scruter le chemin par lequel nous étions arrivés.
« Les Boches s'attaquent à la colonne aveugle »
cria-t-il à notre intention.
« Ils seront là dans 30 minutes ou moins, en fonction de l'agilité de Seagull. Je suggère qu'on en finisse ici et qu'on s'en aille.
Pour aller où ?»
demandai-je au milieu d'une terrible quinte de toux. Je savais que je devais redescendre là où l'air était suffisamment riche pour pouvoir respirer, même avec les piquants de la carapace et les pinces de la langouste que j'avais dans la gorge. Le diacre tourna la tête à droite, puis la leva, regardant l'impressionnant deuxième ressaut qui se dressait à moins d'une centaine de mètres. Pas beaucoup plus haut, semblait-il. Le sommet de l'Everest paraissait exhaler un plumet de 30 kilomètres d'une neige poudreuse emportée par le vent.